Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous sommes aujourd'hui à la Maison des Femmes Santé du CHU de Dijon-Bourgogne-Côte d'Or. Et nous sommes avec M. Beg, médecin légiste, qui est le responsable de cette maison, que nous allons donc interviewer dans quelques minutes. Un espace particulier d'écoute, de soins et d'accompagnement pour les femmes. Bonjour M. Beg.
Bonjour.
Et nous sommes avec Corentin Fleury, donc, de l'Université Bourgogne-Franche-Comté, qui est en stage et qui va commencer cette interview. Interview de M. Beg.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre structure en quelques rapidement ?
Oui, la Maison des Femmes Santé de Côte d'Or est une structure d'accueil des femmes pour améliorer leur santé avec trois parcours de soins, notamment un parcours de soins violence, un parcours de soins santé sexuelle et un parcours de soins de lutte contre les mutilations sexuelles féminines.
Qu'est-ce qui a amené la création de ce lieu ? Est-ce que ça manquait en Côte d'Or et à Dijon ?
Alors, les premières maisons des femmes ont été créées. La première maison des femmes a été créée dans le 93 à l'hôpital de Saint-Denis. Il s'agissait pour le docteur Ada Hatem d'extérioriser son service de PMI et elle a décidé de prendre en charge aussi les violences faites aux femmes. C'est une maison qui a été créée il y a maintenant 10 ans et qui a décidé de développer ce système en France. Et ça a été évidemment repris par le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça a été repris par les agences régionales de la santé, avec notamment une instruction à l'été 2024 sur la structuration de l'unité hospitalière, puisque c'est bien une unité hospitalière du CHU de Dijon.
Quelle est donc la plus-value par rapport à une association professionnelle, bien sûr, qui s'occuperait d'accueil de femmes violentées?
Alors, la plus-value par rapport à une association, c'est que nous sommes en fait une unité hospitalière. C'est-à-dire que chaque patiente voit un médecin, et puis c'est une prise en charge qui associe, donc pour le parcours violence, un médecin légiste, une infirmière, une psychologue et une assistante sociale. L'idée derrière la Maison des Femmes, c'est de faire une sorte de tremplin doux pour pouvoir aller à la plainte, essayer d'avoir tous les éléments avant d'aller à la plainte, plutôt que sur une période critique, voir la police faire la plainte et avoir tous ces avantages ensuite. Ce qui est important de comprendre, c'est que un médecin légiste travaille sur réquisition dans une unité médico-judiciaire. Et du coup, on sait que seulement 16% des femmes portent plainte dans des cas de violences conjugales. Et donc l'idée pour nous aussi, c'était pour les médecins légistes de pouvoir proposer nos services aux 84% qui ne portent pas plainte.
En quoi le concept de guichet unique facilite-t-il la démarche pour les victimes ?
En fait, les violences au sein du couple, et même les violences tout court, ça fait une perte de repère. Et bien souvent, les conséquences des violences sont évidemment, comme on peut imaginer, les blessures liées au coup, mais aussi les blessures psychiques liées aux violences psychiques. Et puis, ça désorganise aussi la personne. Si vous êtes victime de violences et que vous êtes surveillé, s'il y a une coercition, eh bien, vous aurez peut-être des hésitations à aller chez le médecin, parce que si vous avez un quart d'heure de retard, ça vous désociabilise aussi, si ça vous éloigne de votre entourage amical, mais aussi de l'entourage familial. Donc, l'idée derrière le guichet unique, c'est d'avoir beaucoup de spécialités différentes autour de la personne pour lui permettre d'aller mieux sur plusieurs aspects de sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des associations qui sont là depuis de nombreuses années sur le territoire, puisque elles peuvent être des repères, enfin repérer les violences et nous adresser les personnes, et puis aussi on les adresse aussi aux associations dans l'autre sens aussi, puisqu'elles ont une expertise et puis des compétences qui sont différentes des nôtres.
Oui, comme l'hébergement par exemple.
L'hébergement, ça peut être aussi la psychothérapie de soutien qui est faite par Solidarité Femmes, ça peut être les conseils juridiques par France Victimes ou les conseils sur la vie de la famille et les droits des femmes par le CDFF.
Alors, on sait, vous l'avez mis dans votre plaquette, très intéressant, qu'une femme victime de violence, parfois des hommes d'ailleurs, hein, ben c'est beaucoup plus rare, met du temps à quitter. Et parfois quittent plusieurs fois, reviennent, repartent. Et là, des problèmes, parce que souvent, ces personnes, enfin, dans le temps, étaient jugées, étaient mal jugées, notamment par la police qui les recevait, parce qu'elles repartaient chez elles, malgré la violence, malgré les marques. Mais comment arrive-t-on jusque-là, justement, dans ce moment extrêmement complexe et difficile et douloureux? Parce que les gens ont envie, ont la volonté au bout d'un moment, mais comment on fait pour arriver jusqu'ici?
En effet, les violences conjugales, on dit souvent que c'est comme une grenouille qui est dans une marmite avec l'eau qui monte, la température qui monte. En fait, je trouve que ce n'est pas une image tout à fait correcte, parce qu'en fait, la grenouille ne se rend pas compte, alors que les personnes victimes de violences dans le couple se rendent compte qu'il y a un problème. Et moi, l'image que je préfère, c'est plutôt l'image des sables mouvants, où en fait, la personne sait qu'elle est en danger, essaye de s'en sortir toute seule, mais à chaque fois qu'elle essaye toute seule, eh ben, elle peut s'enfoncer. Et l'idée de la Maison des Femmes, et aussi des associations, hein, c'est d'être une branche pour laquelle la personne peut se sortir des sables mouvants, et non pas la tirer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse saisir aussi, il faut aussi qu'on puisse respecter son autonomie, et on va aller à son rythme, c'est-à-dire qu'on peut venir à la Maison des Femmes et ne pas porter plainte dans les jours qui suivent. On peut éventuellement, si la situation n'est pas avec un danger immédiat et une emprise manifeste très importante, on peut prendre un peu de temps. Qu'on a décidé de faire à la Maison des Femmes, c'est de prendre les violences faites aux femmes un peu comme une maladie chronique. Non pas que les femmes sont malades et c'est pour ça qu'elles subissent des violences, mais que l'exposition chronique aux violences, ça rend malade.
Je vais revenir un peu sur les services que vous proposez. Comment s'organise votre équipe comment elle est composée? De quoi elle est composée?
Alors, pour ce qui est du parcours santé sexuelle, on a une sage-femme et des gynécologues médicaux qui font des soins de prévention, des soins de contraception, des soins classiques. Donc ça, c'est des consultations. Pour ce qui est du parcours violence, eh bien, c'est un hôpital de jour le matin où on voit le médecin légiste qui rédige un certificat médical qui permet de nourrir un dossier judiciaire s'il est déjà lancé ou d'en lancer un en portant plainte. Une infirmière qui fait un questionnaire de santé globale et des échelles psychiques, de santé psychique. Une psychologue qui fait un bilan psychologique et une assistante sociale qui fait un bilan social et puis donne aussi des astuces pour pouvoir éventuellement voir la suite pour les enfants, pour comment préparer son sac, quel est l'avantage d'avoir un compte en banque à soi. Ça, c'est les matins. Et les après-midi, on a des consultations de suivi. Parfois, l'assistante sociale a besoin de revoir la personne, la psychologue aussi. C'est-à-dire qu'elle a pu faire un bilan avec un besoin de soins, mais on sait que les soins vont arriver dans quelques mois puisqu'il y a une liste d'attente. Et bien, peut-être qu'on va faire quelques consultations à la Maison des Femmes, sachant qu'on a aussi le projet de proposer une psychothérapie spécifique du psychotraumatisme qui s'appelle l'EMDR à la Maison des Femmes.
Un mot sur l'EMDR, parce que tout le monde ne connaît pas.
Alors l'EMDR, c'est une psychothérapie courte, en général entre 10 et 20 séances, qui a un acronyme anglais, donc je vais essayer de me concentrer, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc c'est une psychothérapie qui vise non pas à effacer la mémoire traumatique, parce que les souvenirs, on les aura, mais ça sert à baisser la réponse émotionnelle à ces souvenirs traumatiques. C'est une thérapie qui fonctionne bien et qui est en pleine expansion dans le domaine médical actuel.
On peut rappeler qu'elle était utilisée et observée scientifiquement pour les victimes du Bataclan.
Oui.
Sur une étude médicale et scientifique importante.
Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi, avec nos infirmières, la possibilité de faire des prises de sang pour avoir les statuts sérologiques, éventuellement suivre les patientes. Parfois, les adresser aussi. On a eu des patientes qui avaient arrêté leur suivi pneumologique, qui avaient arrêté le suivi du diabète, et donc on a repris cet aspect-là de leur santé aussi.
Oui, parce qu'elles s'effondraient complètement.
Voilà, elles étaient enfermées, en fait, dans les violences.
Je vais revenir sur les conditions d'accès pour les femmes qui viendraient ici, par rapport à la gratuité ou par rapport à l'âge requis, notamment. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot?
Alors, on est une unité hospitalière, donc on a besoin d'une couverture sociale, c'est-à-dire on a besoin d'avoir la sécurité sociale et une mutuelle. C'est, voilà. En termes financiers, on est financé par la tarification à l'acte hospitalière, c'est comme dans tous les services hospitaliers. On a aussi on a bénéficié de la mission d'intérêt général de l'ARS qui a permis de monter le service. Au début, on n'avait pas d'activité, donc il fallait bien pouvoir créer le service. Et puis, on bénéficie aussi du mécénat qui vient du national au niveau de Restart, puisque la fondation ENGIE nous a payé notre échographe, ce qui est un appareil qui coûte assez cher. Et puis, les hôtels Accor on payait des meubles et puis une partie du salaire de notre secrétaire. Et puis on a bénéficié aussi, ça j'aime bien le mentionner parce que c'était quand même très important pour l'association de soutien, puisqu'il existe une association de soutien dont le but est de faire connaître la Maison des Femmes et de récolter des fonds. Et on a bénéficié d'une soirée caritative le 14 décembre 2023, au Clos Vougeot, où on a pu récolter de l'argent suite à une vente de vin pour améliorer la prise en charge des femmes dans la structure. Donc cet argent va nous servir à en fait aller plus loin que ce qu'on propose actuellement et donc faire des ateliers de reconstruction, peut-être par le dessin, peut-être par la danse, peut-être par d'autres moyens, et donc aller plus loin grâce à l'argent des mécènes. L'accès donc se fait, il faut avoir une couverture sociale, ça c'est sûr, c'est à partir de 18 ans, c'est-à-dire que s'il y a des enfants qui sont co-victimes, il faudra qu'on les adresse à notre partenaire de l'UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, que l'on connaît bien, à qui on travaille depuis de nombreuses années. Et ça peut être une saisie de la patiente elle-même, c'est-à-dire que la patiente peut appeler au 03 80 66 93 00 et prendre un rendez-vous. Elle est aussi, la plupart du temps, en fait, adressée par un professionnel ou une association, à 80% du temps.
Est-ce que c'est disponible aussi sans rendez-vous?
Ah non, c'est okay. Pas sans rendez-vous, puisqu'il faut programmer les hospitalisations de jour. Donc c'est pas une prise en charge en urgence. C'est-à-dire qu'une maison des femmes ne remplace pas le service des urgences, ne remplace pas le médecin traitant, ne remplace pas SOS 21. Pour l'instant, on vient d'ouvrir. On a ouvert le 2 juin, on a commencé à faire des prises en charge de patientes au 2 juillet. On en a vu jusqu'à présent, là on est fin janvier, on en a vu 160. Mais c'était sur rendez-vous. Alors en effet, comme on vient de démarrer, on peut voir les gens la semaine d'après, c'est possible. Mais il faut savoir qu'il y a des maisons des femmes où il y a 9 mois d'attente pour pouvoir passer en hôpital de jour. Donc c'est toujours sur rendez-vous. Comme je disais, en fait, on n'est pas là pour traiter au moment aigu. C'est-à-dire que s'il n'y a jamais besoin de soins suite aux violences, on va aux urgences. Et aux urgences, le médecin fait un certificat initial que nous, on pourra utiliser pour compléter notre propre certificat à ce moment-là,
quand on verra. Si vous êtes de plus en plus connu,
oui,
par le bouche-oreille, parce que je pense que c'est important, et qu'une femme vous appelle un peu déboussolée, c'est vous qui l'orientez à ce moment-là vers les urgences, par exemple, s'il y a une...
Oui, c'est la besoin
si
de
elle
soins.
Peut sortir, quoi, si c'est... elle peut sortir.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis s'il y a un danger pour sa vie urgent, il faudra qu'elle appelle le 17, il faudra, oui, en effet...
Et elle peut prendre rendez-vous elle-même,
oui,
par téléphone. Quelqu'un peut prendre rendez-vous tout seul, sans passer par un service.
Sans passer par un professionnel, tout à fait. D'accord. Ça arrive,
bon, c'est
en
important.
Effet. Oui, oui.
Comment se déroule l'accueil pour la première fois qu'une personne viendrait ici?
En général, le premier accueil, il est téléphonique. C'est-à-dire que nos patientes, elles appellent le secrétariat et toutes les modalités leur sont expliquées, parce qu'on sait que l'hôpital de jour, ça prend du temps, donc il faut quand même avoir prévu d'avoir sa matinée devant soi. Les modalités d'accès, évidemment, physiques. D'ailleurs, à ce propos, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a un partenariat avec APF France Handicap, qui est une association donc, qui est dédiée au handicap et qui nous a généreusement garanti de pouvoir accompagner des femmes victimes d'un handicap, que ce soit privation sensorielle, que ce soit mobilité réduite, pour les accompagner dans la structure.
Qu'est-ce que vous faites dès qu'une personne franchit la porte ici?
Donc elle est accueillie par notre secrétaire qui l'enregistre au niveau hospitalier, puisqu'on a un système, un logiciel en fait partagé entre tous les professionnels. Ah oui, ça c'est une chose importante, c'est de dire qu'on essaye de ne pas faire trop répéter la personne. C'est-à-dire que le médecin légiste va vraiment se centrer sur les violences, l'infirmière sur la santé globale, la psychologue sur le ressenti. On va essayer de faire des choses un peu séparées, pas qu'il y ait trop de répétitions, et en fin de matinée, quand les patientes sont reparties, on fait une réunion pluridisciplinaire où on parle de tout, et on décide d'un plan de soins qui sera exposé à la patiente une semaine après. En général, on n'explose pas tout de suite, parce qu'il faudrait qu'elle attende, et puis ensuite, c'est quand même des matinées un peu difficiles, faut dire, c'est émotionnellement chargé, donc c'est parfois plus simple de réexpliquer les choses une semaine après.
Vous avez parlé tout à l'heure de 160 accueils, hein, depuis votre ouverture réelle. Qu'est-ce que ça représente en termes de continuité, de devenir des personnes? Vous avez déjà une lecture un petit peu?
Oui, puisque on fait l'hospitalisation de jour, puis on a le suivi à une semaine, puis on a instauré un suivi à 6 mois pour savoir en fait. Alors il y a des suivis qui sont plus rapprochés s'il y a des besoins, mais Pour la majorité des patientes, on a fait un suivi à 6 mois, ce qui a permis en fait de s'apercevoir que certaines personnes allaient mieux rien que d'avoir évoqué les violences dont elles étaient victimes, d'avoir la possibilité de porter plainte, mais pas forcément en portant plainte, mais aller mieux rien qu'en ayant cette possibilité. Et je me rappelle d'une dame qui a pu trouver un emploi, alors que ça faisait des années qu'elle était en errance professionnelle. J'en ai une autre qui a réussi à nous autoriser à signaler les violences dont elle était victime, alors qu'elle s'y refusait depuis des années. Donc il y a vraiment eu un impact positif. On fait aussi des questionnaires de satisfaction qui sont à 100% satisfaits. On est assez content de ça.
Les questions de l'impact... l'évaluation de votre travail, de toute façon.
Oui,
c'est un élément d'évaluation de votre travail, en tout cas.
Oui, et puis pour avancer, parce qu'on n'est on est peut-être pas parfait d'emblée, et puis je pense qu'on peut toujours s'améliorer, et les patients ont une connaissance au plus profond de nos process. C'est sûr que nous, dans notre travail, on fait notre travail, mais c'est vrai que ceux qui connaissent le mieux, c'est les patientes, c'est sûr.
Comment gérez-vous la confidentialité et la sécurité des patients sur place?
Alors, pour la sécurité, c'est un service qui est fermé. C'est-à-dire que pour accéder à la maison des femmes, il y a un visiophone et donc on ne fait entrer que les personnes qui sont prévues. Et la confidentialité, bah, c'est celle de la médecine globale. C'est-à-dire que notre serveur en fait, est centré au CHU. Donc là, on est à la clinique Benning-Joly. Mais en fait, tout le matériel, les professionnels et le plateau technique est celui du CHU. On collabore évidemment étroitement avec la clinique Benning-Joly puisque on est dans leur mur, donc évidemment qu'ils ont une part importante dans le processus. Et donc la confidentialité est bonne, hein, c'est-à-dire que il y a une chose qui est importante, ah oui, c'est qu'on a accès au logiciel du CHU, donc on peut éventuellement voir les passages aux urgences pour pouvoir faire de la matérialité supplémentaire, mais on est une unité invisible du reste du CHU. C'est-à-dire que nous, on peut voir le dossier de la patiente, mais le reste du CHU ne peut pas voir si elles sont passées chez nous.
D'accord, c'est une garantie absolue pour,
oui,
pour les gens.
Oui, et c'est vérifié toutes les semaines de savoir quelle est la liste des personnes qui ont accès à cette unité.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse et de paranoïa, entre guillemets, mais... Quand on est dans ces
de prudence, on pourrait dire, oui. Oui. Elles sont assez prudentes en général. Oui.
Vous avez parlé de thérapie tout à l'heure.
D'atelier de reconstruction.
D'atelier de reconstruction. Est-ce qu'il y a d'autres types d'accompagnement sur le long terme qui sont proposés?
Alors, pour l'instant, on est en pleine réflexion et en pleine expérimentation. Donc, entre l'association de soutien qui finance les ateliers de reconstruction et les professionnels de la structure qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, il y a des réunions où on va décider en fait, de différents ateliers à mettre en place et on a une période d'expérimentation pendant l'année 2026 où on voit quels sont les ateliers les plus pertinents. Donc on travaille là-dessus. La prochaine réunion de l'association sera la semaine prochaine et on va plancher sur les différents projets qu'on va pouvoir mettre en place. On n'est pas... une structure qui nécessitera un suivi très prolongé en fonction des situations, bien entendu. Mais l'idée aussi, c'est de ne pas trop engorger la structure pour pouvoir accueillir des nouvelles femmes, le cas échéant.
Oui, parce que peut-être que le bouche à oreille et le succès, entre guillemets, viendra encore plus, puisque on le voit dans les maisons des femmes qui ont un certain temps d'existence en France. Hein, ça devient difficile. Hein. Peut-être dire un mot de cette association des amis de la Maison des Femmes, je pense que c'est important.
En fait, l'association de soutien de la Maison des Femmes de Côte d'Or a été créée en 2025, mais en fait, c'est un groupe de personnes qui ont travaillé depuis 2022. En fait, il y a eu un comité de pilotage qui s'est créé avec Marie-Thérèse Pugliese, qui est conseillère départementale et qui travaille à la Mutualité française, Lucie Gras, qui est la présidente de Vive 3 Bourgogne, le professeur Bardou, qui est professeur à l'Université de Bourgogne, Nathalie Piou, qui travaille à l'Université, Elisabeth Denis, qui est sage-femme à la maternité, Paola Burdin, qui travaille aussi à Vive 3 Bourgogne. Toutes ces personnes, en fait, ça nous a permis de faire connaître le concept, d'aller voir différentes associations. On a toujours été bien accueillis, d'ailleurs, hein, d'aller voir... le tribunal, d'aller voir les forces de police et de gendarmerie, et puis de se faire connaître, et puis de faire comprendre que chaque département est différent en France. C'est sûr que toutes les populations ne se ressemblent pas exactement, mais on pense que quand même, le phénomène de violence faite aux femmes, il est malheureusement dans toute la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut qui protège a priori des violences. Nous, on a des femmes qui viennent ici, qui sont de tous horizons. Voilà, il y a des femmes qui ne travaillent pas, mais il y a aussi des femmes qui étaient des salariées du CHU, il y a des femmes qui sont bien insérées dans la société, d'autres non, d'autres qui ont des problèmes en effet d'accès sociaux liés à la langue et ce genre de choses. On a de tout. Et du coup, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans cette structure, on ne juge pas les situations. C'est-à-dire que oui, une situation elle a pu durer longtemps. On comprend aussi que c'est pas les violences dans le couple, c'est une situation particulière, puisque parfois son agresseur, on l'aime encore au moment où on porte plainte. Et c'est compliqué, on ne veut pas qu'il ait d'ennui, mais on veut que les situations s'arrêtent. Donc c'est toujours très compliqué, il faut savoir ça, c'est qu'on ne va pas juger la personne qui va demander de l'aide, on va essayer de l'accompagner le mieux possible et de respecter son autonomie.
Et ça renvoie aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question des enfants, parce que ça complique énormément les choses et c'est parfois très cruel. En tout cas, il y a souvent des enfants. Alors, oui. Quelle est votre place? Peut-être rappeler votre place et les limites de votre place par rapport à...
Oui, alors si la patiente a des enfants, on pourra les garder le temps de son passage dans notre structure, mais on n'examine pas les enfants. Nous, on est donc limité par ça. On fait à partir de 18 ans. Si jamais des enfants sont victimes, bien entendu, on pourra les adresser préférentiellement à l'unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, qu'on connaît bien.
D'accord. Et donc, quand il y a des problèmes juridiques, notamment c'est les ordonnances de protection, parce que ça évolue actuellement, heureusement d'ailleurs, mais vous avez des gens compétents pour traiter de cet aspect-là aussi?
En fait, on collabore avec France Victime, qui vient une demi-journée par semaine dans la structure. Donc, pour ce qui est de l'aspect pénal et de l'aspect protection, il y a cette association. Et puis pour ce qui est du droit de la famille et des femmes, ben on a une demi-journée aussi le CIDFF qui vient.
Donc tout est fait pour que les personnes soient en sécurité et comprennent qu'elles peuvent engager quelque chose en tout cas.
Elles peuvent aussi se renseigner. Moi j'ai eu une patiente, ça semble étrange, mais elle dit: j'ai eu un épisode de violence verbale par mon conjoint et je viens vous voir pour lui montrer que ce qu'il a fait n'est pas bien, pour qu'il voie le certificat. Et que ça s'arrête là. Donc ça peut aussi avoir une sorte d'effet préventif sur des violences physiques. Donc c'était étonnant, parce que je ne m'attendais pas en fait à une démarche comme ça, mais ça a fonctionné.
Là, vous avez évoqué tout à l'heure la question des papiers de sécurité sociale. Parce que la question va nous être posée, les gens qui n'ont pas de papiers, qui sont sans papiers, ou sous QTF, etc., est-ce qu'ils ont... Comment font-ils alors quand ils sont victimes de violences?
Alors l'idée, en fait... c'est que quand une situation comme ça apparaît, il existe en effet des solutions. Alors moi, je ne suis pas spécialiste des affaires sociales, mais il y a l'aide médicale d'État, il y a des couvertures sociales solidaires. Donc là, ce qu'on conseille quand même, parce qu'on est une unité hospitalière et l'hôpital ne peut pas dire qu'en fait la santé n'a pas de coût. En réalité, la santé a un coût, même si on ne s'en rend pas compte, et que c'est la sécurité sociale et la mutuelle qui prend en charge. Mais donc... On doit, nous, pouvoir, pour faire vivre la structure, avoir ces...
Pas banaliser ça, en tout cas.
Ouais. En tout cas, oui. Et donc, si jamais on a des situations avec vraiment une grande indigence, je pense qu'on pourra faire un certificat. Mais pour accéder à l'ensemble du parcours de soins, il faudra avoir une régularisation, peut-être par une assurance sociale de chez nous, mais une régularisation au niveau des droits sociaux.
Oui, c'est l'application de la loi, dans le respect de la loi.
Quoi. Dans le respect de la loi, tout à fait.
Très bien. En matière de projet, en matière d'avenir, vous avez évoqué, peut-être résumer un petit peu vos projets, un petit peu comment vous communiquez aussi pour développer ces projets, développer la connaissance de votre maison.
Oui, alors là, on a déjà présenté cette structure à l'Ordre des médecins, on va la présenter, on l'a présentée à la maison de santé de Châtillon au mois de décembre, je suis allé la présenter aussi à l'école des greffes, parce qu'à Dijon on a la chance d'avoir l'école des greffes, et donc c'est des greffiers qui vont partir dans toute la France, donc ça peut être utile de ce point de vue-là. On la présente à des groupes de formation professionnelle type CPTS, on va aussi dans des CCAS, on va la présenter et fait visiter la structure au centre hospitalier de la Chartreuse aussi. On sait que la pathologie mentale est un facteur de vulnérabilité des violences, donc ça c'était important aussi d'être main dans la main avec ce centre hospitalier. On va encore présenter la structure, on va partir à Beaune, on va, parce que c'est bien la maison des femmes de Côte d'Or, hein, c'est pas la maison des femmes de Dijon ou de Talence ou de l'agglomération dijonnaise. D'ailleurs, dans nos statistiques depuis cet été, 60% des femmes ne viennent pas de l'agglomération dijonnaise. Donc,
c'est important. Hein.
C'est important qu'elles viennent aussi de toute la Côte d'Or. On va donc, on est en phase d'expérimentation donc, pour améliorer la reconstruction. Et puis, on a d'autres projets à plus ou moins long terme. On va accueillir le Congrès national des maisons des femmes Restart en 2027 à Dijon. On va participer aussi à d'autres congrès, des journées spécifiques du psychotraumatisme. Ça, ce sera début 2027. En tout cas, on pense aussi. On avait participé aux assises de la prévention à Dijon national, et donc on pourra aussi à nouveau s'y présenter. On a pas mal d'idées. On voudrait aussi se rapprocher de l'ordre des pharmaciens pour pouvoir mettre peut-être un autocollant dans les pharmacies avec un QR code qui ramènerait sur l'adresse et le téléphone. On a encore quelques chevaux de bataille.
Mais ça peut se faire aussi dans les grandes surfaces. Je sais qu'à un moment donné, il y avait des messages sur violence conjugale, les intermarchés, ou tout ça, je ne sais plus.
Enfin, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Il passe beaucoup de gens, quand même.
Oui, tout à fait.
C'est surtout dans des magasins moins chers que d'autres. Enfin, en tout cas, beaucoup de monde passe par ces grandes surfaces. Très bien. Monsieur Beg, est-ce que vous voulez, docteur Beg, ajouter quelque chose à votre propos?
Ce qu'on peut dire sur la maison des femmes, c'est que on peut venir pour révéler des violences, on peut venir pour avoir des soins. Ce qui est important à savoir, c'est que cette unité hospitalière vous accueillera quoi qu'il en soit, sans vous juger, et en essayant de faire le meilleur pour vous.
Donc c'est un lieu d'accueil, de rencontre et de soins. Nous étions donc avec le docteur Bruno Beg de la Maison des Femmes Santé de Côte d'Or, qui se trouve actuellement à Talence, à la clinique Sainte-Bénigne. Shalom Bourgogne suivra évidemment avec intérêt le développement de ce travail qui, on le rappelle, concerne l'ensemble des femmes victimes de Côte d'Or, et pas seulement de l'agglomération de Dijon. En tout cas, à très bientôt. Merci de votre accueil.
Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.